Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 24 décembre et j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous l'ayez fêté ou non, seul ou accompagné, dans la joie ou l'indifférence. Le narrateur de notre histoire ce soir, lui, a le réveillon de Noël en horreur, et on le comprend alors qu'il nous en explique les raisons. C'est une nouvelle très amusante de Maupassant, intitulée « Nuit de Noël ». Je vous souhaite une excellente nuit, un joyeux Noël, et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et fermez la page de cette journée. Permettez à votre esprit de se vider de toutes les préoccupations du quotidien et de se laisser aller à la détente. Peu importe ce qu'il se passe dans votre vie en ce moment, cette journée est terminée, ce chapitre est désormais écrit et joué. Il est temps maintenant de se laisser aller au repos et de laisser tout le reste à la porte. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez, gonflez votre poitrine, retenez l'air un court instant et expirez à votre rythme. À nouveau, prenez une grande inspiration par le nez, gonflez votre ventre cette fois, retenez l'air un court instant et expirez par la bouche. Laissez à présent votre respiration retrouver un rythme normal et concentrez-vous simplement sur votre poitrine et sur votre ventre, qui montent et descendent au rythme de votre respiration. Concentrez-vous à présent sur le point qui se situe juste en dessous de votre nombril. Dans la culture hindouiste, il s'agit du chakra Ara, qui est de couleur orange et se situe environ à 3 cm au-dessous de votre nombril. Un chakra, c'est un centre d'énergie, il y en a 7 situés dans notre corps et ils ont, selon plusieurs cultures, une influence sur notre mental. Peu importe que vous soyez familier ou non avec cette culture ou que vous soyez sceptique sur leur existence, laissez-vous simplement prendre au jeu et aller à la détente. Le chakra Ara est le chakra de l'intelligence émotionnelle, de la créativité, du plaisir et du mouvement. C'est aussi le chakra de la force vitale qui nous permet de nous ressaisir et d'aller de l'avant dans les moments difficiles. Prenez quelques instants pour concentrer toute votre attention dessus et imaginez comme un halo orange à cet endroit, un petit tourbillon qui semble s'élargir à mesure que vous inspirez, puis se rétrécir à l'expiration, puis s'élargir à nouveau. Prenez un moment pour simplement vous concentrer sur votre respiration et sur ce point au-dessous de votre nombril. Observez simplement vos sensations. Est-ce que Vous ressentez des picotements, une sensation de chaleur, une sensation de vibration, une sensation plus complexe. À présent, imaginez que vous inspirez et que vous expirez à travers votre chakra Hara et laissez toutes les énergies bloquées s'échapper à l'expire. À chaque expire, vous vous sentez plus calme et plus léger. Continuez de respirer à travers ce point au-dessous de votre nombril et demandez à votre corps de se détendre totalement, de s'abandonner sur le matelas sans résistance. Laissez vos pieds et vos jambes se détendre et cette couleur orange venir peu à peu remplir votre corps tout entier. Laissez vos épaules se relâcher et se remplir de ce halo orange. Puis vos mains. Les muscles de votre visage. Votre cuir chevelu. Vos oreilles. Votre mâchoire. Votre menton. Vos joues. Votre nez, vos yeux, le point entre vos deux sourcils, et votre front. Prenez un moment pour vous concentrer uniquement sur votre respiration. Lorsque vous inspirez, pensez joie, force, créativité. Et lorsque vous expirez, laissez s'en aller toutes les émotions indésirables. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Le réveillon, ah mais non, je ne réveillonnerai pas. » Le gros Henri Templier disait cela d'une voix furieuse, comme si on lui eût proposé une infamie. Les autres, riant, s'écrièrent. « Pourquoi te mets-tu en colère ?» Il répondit. « Parce que le réveillon m'a joué le plus sale tour du monde, et que j'ai gardé une insurmontable horreur pour cette nuit stupide de gaieté imbécile. Quoi donc, vous voulez le savoir, eh bien, écoutez. Vous vous rappelez comme il faisait froid voici 2 ans à cette époque. Un froid a tué les pauvres dans la rue. La Seine gelée, les trottoirs glacés les pieds à travers les semelles des bottines. Le monde semblait sur le point de crever. J'avais alors un gros travail en train, et je refusai toute invitation pour le réveillon, préférant passer la nuit devant une table. Je dînai seul, puis je me mis à l'œuvre. Mais voilà que vers 10 heures la pensée de la gaieté courant Paris, le bruit des rues qui me parvenait malgré tout, les préparatifs de souper de mes voisins entendus à travers les cloisons, m'agitèrent. Je ne savais plus ce que je faisais, j'écrivais des bêtises et je compris qu'il fallait renoncer à l'espoir de produire quelque chose de bon cette nuit-là. Je marchais un peu à travers ma chambre. Je m'assis, je me relevais. Je subissais certes la mystérieuse influence de la joie du dehors, et je me résignais. Je sonnai ma bonne, et je lui dis « Angèle, allez m'acheter de quoi souper à deux, des huîtres, un perdreau d'eau froid, des écrevisses, du jambon, des gâteaux. Montez-moi 2 bouteilles de champagne, mettez le couvert et couchez-vous. » Elle obéit, un peu surprise. Quand tout fut prêt, j'endossai mon pardessus et je sortis. Une grosse question restait à résoudre. Avec qui allais-je réveillonner? Mes amis étaient invités partout. Pour en avoir une, il aurait fallu m'y prendre d'avance. Alors je songeai à faire en même temps une bonne action. Je me dis, Paris est plein de pauvres et belles filles qui n'ont pas un souper sur la planche et qui errent en quête d'un garçon généreux. Je veux être la providence de Noël d'une de ces déshéritées. Je vais rôder entre dans les lieux de plaisir, questionner, chasser et choisir à mon gré. Et je me mis à parcourir la ville. Certes, je rencontrai beaucoup de pauvres filles cherchant aventure, mais elles étaient laides à donner une indigestion, ou maigres à geler sur pied si elles s'étaient arrêtées. J'ai un faible, vous le savez, j'aime les femmes nourries. Plus elles sont en chair, plus je les préfère. Une colosse me fait perdre la raison. Soudain, en face du théâtre des variétés, j'aperçus un profil à mon gré. Une tête, puis par devant 2 bosses, celle de la poitrine, fort belle, celle du dessous surprenante, un ventre d'oie grasse. J'en frissonnai, murmurant « Sacristie, la belle fille !» Un point me restait à éclaircir, le visage. Le visage, c'est le dessert, le reste, c'est le rôti. Je hâtai le pas, je rejoignis cette femme errante, et sous un bec de gaz, je me retournai brusquement. Elle était charmante, toute jeune, brune, avec de grands yeux noirs. Je fis ma proposition, qu'elle accepta sans hésitation. Un quart d'heure plus tard, nous étions attablés dans mon appartement. Elle dit en entrant « Ah, on est bien ici !» Et elle regarda autour d'elle avec la satisfaction visible d'avoir trouvé la table et le gîte en cette nuit glaciale. Elle était superbe, tellement jolie qu'elle m'étonnait et grosse à ravir mon cœur pour toujours. Elle ôta son chapeau, son manteau, s'assit et se mit à manger. Mais elle ne paraissait pas en train, et parfois sa figure un peu pâle tressaillait comme si elle eût souffert d'un chagrin caché. Je lui demandai « Tu as des embêtements ?» Elle répondit « Bah, oublions tout. » Et elle se mit à boire. Elle vidait d'un trait son verre de champagne, le remplissait et le revidait encore, sans cesse. Bientôt, un peu de rougeur lui vint aux joues, et elle commença à rire. Moi, je l'adorais déjà, l'embrassant à pleine bouche, découvrant qu'elle n'était ni bête, ni commune, ni grossière comme les filles du trottoir. Je lui demandai les détails sur sa vie. Elle répondit « Mon petit, cela ne te regarde pas. » Hélas, une heure plus tard, enfin, le moment vint de se mettre au lit, et pendant que j'enlevais la table dressée devant le feu, elle se déshabilla hâtivement et se glissa sous les couvertures. Mes voisins faisaient un vacarme affreux, riant et chantant comme des fous, et je me disais, j'ai eu rudement raison d'aller chercher cette belle fille, je n'aurais jamais pu travailler. Un profond gémissement me fit retourner. je demandai. « Qu'as-tu, ma chatte ?» Elle ne répondit pas, mais elle continuait à pousser des soupirs douloureux, comme si elle eût souffert horriblement. Je repris. « Est-ce que tu te trouves indisposée ?» Et soudain, elle jeta un cri déchirant. Je me précipitai, une bougie à la main. Son visage était décomposé par la douleur et elle se tordait les mains, haletante, voyant du fond de sa gorge ces sortes de gémissements sourds qui semblaient des râles et qui font défaillir le cœur. Je demandai, éperdu, « Mais qu'as-tu, dis-moi, qu'as-tu ?» Elle ne répondit pas et se mit à hurler. Tout à coup, les voisins se turent, écoutant ce qui se passait chez moi. Je répétai, « Où souffres-tu, dis-moi, où souffres-tu ?» Elle balbutia. « Oh, mon ventre, mon ventre !» D'un seul coup, je relevai la couverture et j'aperçus... Elle accouchait, mes amis. Alors, je perdis la tête, je me précipitai sur le mur que je heurtai à coups de poing, de toute ma force en vociférant. « Au secours, au secours !» Ma porte s'ouvrit, une foule se précipita chez moi, des hommes en habit, des femmes décolletées, des pierrots, des turcs, des mousquetaires. Cette invasion m'affola tellement que je ne pouvais même plus m'expliquer. Eux, ils avaient cru à quelque accident, à un crime peut-être, et ne comprenaient plus. Je dis enfin, « C'est cette femme qui accouche. » Alors, tout le monde l'examina et dit son avis. Un capucin surtout prétendaient s'y connaître et voulaient aider la nature. Ils étaient gris comme des ânes. Je crus qu'ils allaient la tuer, et je me précipitai nu-tête dans l'escalier pour chercher un vieux médecin qui habitait dans une rue voisine. Quand je revins avec le docteur, toute ma maison était debout. On avait rallumé le gaz de l'escalier, les habitants de tous les étages occupaient mon appartement, quatre débardeurs attablés achevaient mon champagne et mes écrevisses. À ma vue, un cri formidable éclata, et une laitière me présenta dans une serviette un affreux petit morceau de chair ridée, plissée, geignante, miaulant comme un chat, et elle me dit « C'est une fille. » Le médecin examina l'accouchée, déclara douteux son état, l'accident ayant eu lieu immédiatement après un souper, et il partit en annonçant qu'il allait m'envoyer immédiatement une garde malade et une nourrice. Les deux femmes arrivèrent une heure après, apportant un paquet de médicaments. Je passai la nuit dans un fauteuil, trop éperdu pour réfléchir aux suites. Dès le matin, le médecin revint. Il trouva la malade assez mal. Il me dit « Votre femme, monsieur... » Je l'interrompis, ce n'est pas ma femme. Il reprit « Votre maîtresse, peu m'importe. » Et il énuméra les soins qu'il lui fallait, le régime, les remèdes. Que faire? Envoyer cette malheureuse à l'hôpital? J'aurais passé pour un manant dans toute la maison, dans tout le quartier. Je la gardai. Elle resta dans mon lit 6 semaines. L'enfant, je l'envoyai chez des paysans de Poissy. Il me coûte encore 50 francs par mois. Ayant payé dans le début, me voici forcé de payer jusqu'à ma mort. Et plus tard, il me croira son père. Mais pour comble de malheur, quand la fille a été guérie, elle m'aimait. Elle m'aimait éperdument, la gueuse. Eh bien, elle était devenue maigre comme un chat de gouttière, et j'ai flanqué dehors cette carcasse qui me guette dans la rue, se cache pour me voir passer, m'arrête le soir quand je sors pour me baiser la main, m'embête enfin à me rendre fou. Et voilà pourquoi je ne réveillonnerai plus jamais.
Bonne nuit. Bonne nuit.